sourire de voir quelqu'un qui se présente comme populaire en ayant été maire et en étant toujours maire, je crois, de Neuilly-sur-Seine. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment à Neuilly-sur-Seine qu'on ait la meilleure représentativité
Neuilly,
du problème.
Neuilly, c'est l'usine à Vieux, là.
C'est l'usine, hein?
À Vieux.
À Vieux, ouais, il y a des jeunes aussi à Neuilly. Hein.
Ouais,
il y a des jeunes qui sont vieux avant l'âge, mais il y a des jeunes aussi.
Qui votent Sarkozy. Ouais,
voilà, qui ont mon âge et qui votent Sarkozy. Bon, après, on choisit pas son milieu. On a tous notre histoire personnelle. Mais voilà, moi, je trouve qu'il faut attendre de voir et pas condamner a priori leur futur parcours. Quoi. C'est mon point de vue.
On peut dire par là que toutes les chances sont... Ils partent à point zéro et puis on verra bien.
Voilà. Et puis, ça va être dur pour tous les deux, mais en même temps, ils l'ont choisi. Hein. Personne ne leur a mis un pistolet sous la tempe pour se présenter, bon, pour subir tout ça. Quoi.
Changeons de sujet, nous reste quelques minutes avant cette superbe émission qui va arriver après. qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé au Parc des Princes?
Ouais.
Match de football qui se termine par deux morts, hein, enfin un mort et demi.
Un mort, un blessé grave.
Ouais, un mort et demi, c'est ce que je dis.
Un mort et demi.
Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a peut-être un appel, ou pas un appel, non, ça fait penser au mois de juin, à dire quelque chose, écoutez, vous allez voir du sport. D'accord, ça vous plaît. Je sais qu'il y a, vous n'avez plus quelque part, si on fait un panel des gens qui sont là-dedans, on mélange politique et puis sport. Mm. Vous n'avez plus de repères, donc vous êtes accroché à quelque chose. Vous êtes devenu accro. C'est quasiment une addiction. Vous avez le t-shirt, le bonnet, les trompettes, tout le machin. Et puis ça finit en baston. Est-ce que quelque part, on peut pas dire, écoutez les mecs, vous allez voir un match, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ce qu'il faut voir, c'est la beauté du jeu. C'est sûr que à Paris, à l'heure actuelle,
la beauté du jeu n'est pas vraiment au rendez-vous.
Le Parisien, c'est rare.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Si je lance un scoop, le PSG a gagné, ça va téléphoner de partout.
Voilà, les auditeurs vont boomer là.
Mais d'un autre côté, profiter d'une manifestation sportive pour se livrer à des actes de vandalisme ou de bon, je ne vais pas prendre des mots anglais, mais enfin de saccage, dirons-nous.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je pense que c'est un problème qui est présent au parc depuis trop d'années maintenant. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'allais au parc... quand encore l'équipe de France jouait au parc avant le Stade de France. Puis déjà, même quand c'était pas les matchs du PSG, t'avais des petits... toujours pareil, toujours à Boulogne, t'avais des incidents. Alors, je trouve que c'est un problème... parce que là, on parle d'une... Encore une fois, il faudrait pas faire l'amalgame entre tous les supporters de Paris et puis une minorité de racistes, d'antisémites, de supporters vraiment violents. Une minorité au sein même des Boulogne Boys, à savoir que tous les Boulogne Boys ne sont pas à mettre dans le même panier. Mais effectivement, c'est un problème qui dure depuis beaucoup d'années. Et je trouve, de ce point de vue-là, que le club... Alors moi, on me dit que le club a fait énormément d'efforts pour lutter contre ça. Moi, je trouve que... Bon, je suis parisien, j'ai vécu toute cette évolution... Mais je trouve que justement le PSG n'a pas fait assez pour lutter contre cette frange de supporters qui vraiment pollue l'image du club, quoi. Je veux dire, Paris, c'est pas ça. Paris, c'est vraiment autre chose que ça. Et donc ils sont pas vraiment du tout représentatifs du reste des supporters. Alors, ce qui s'est passé, je sais plus quel jour c'était contre le club israélien, c'est sûr que c'est un drame parce que bon, il y a eu quand même un mort. Il y a eu des insultes antisémites, des insultes racistes contre le policier qui était d'origine antillaise. Alors effectivement, c'est un peu des phrases toutes faites, mais le fait que le sport en arrive à faire un mort Que ce soit un policier, que ce soit un bullen boy, que ce soit un supporter israélien, je veux dire, c'est dramatique à tous les points de vue. Et c'est vraiment dommageable.
Entendu, quoi. À moins que vous mettez la bande sans fin, vous vous tirez. Hein. Moi, je ne veux pas arriver à 10 heures avec vous.
Hein. Ça, c'est la suite qui arrive.
La suite. Hein.
Et donc, on continue, tu disais.
Bah voilà, je disais que c'était vraiment dommageable et qu'il fallait pas.
Non, on continue pas, tu interromps ton truc.
Ah, là, on vient de me faire interrompre une émission, donc on termine comme ça.
Bon, on va terminer comme ça. En tout cas, un grand merci à toi, Casquette,
ouais.
Pour cette petite émission.
Alors,
c'était ma première expérience radio
disque,
et merci à toi.
Qui ça pose, tiens,
pour la fin.
Émission. À disque léger et gentil. Hein.
Allez.
Après tout, pourquoi ? Why not ? Allez. On y va à fond. Et puis je vous dis à ciao ciao, à la semaine prochaine. And I walk home.
Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous saurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je...
vous êtes sûr. Eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire. Il est 10h35 minutes après notre indicatif. Eh bien, nous avons effectivement, à partir de 10h10, non, même plus, de 10h20, nous avons diffusé quelques morceaux de Nino Rota. J'espère que les amateurs de ce musicien qui a, de ce compositeur plutôt, qui a illustré les magnifiques films de Fellini, notamment 8 et demi. J'espère que cette audition vous a convenu. Alors on s'excuse aussi de ne pas avoir passé, comme on le fait habituellement, un certain nombre de morceaux, de chansons françaises, de morceaux de jazz, mais il se trouve qu'une émission qui avait disparu depuis fort longtemps est arrivée inopinément ce matin, sans nous prévenir. Donc, effectivement, nous n'avons pas pu commencer un peu plus tôt que les 10h30 notre émission Chronique Hebdo. Effectivement, 10h30, c'est l'heure à laquelle on commence les commentaires philosophiques, sociaux, économiques, politiques, artistiques. L'émission Chronique Hebdo étant, pour ceux qui brusquement découvriraient 89.4, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, une émission quotidienne du jeudi, 10h midi, qui a pour ambition de mettre en perspective l'actualité, de commenter l'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons blasphémer, vous vous rendez compte, nous allons blasphémer. C'est le thème de notre émission. Alors évidemment, le blasphème peut s'appliquer à beaucoup de choses. On va l'appliquer bien sûr à propos des attaques des islamistes contre un professeur de philo, on en a déjà parlé, mais à propos justement d'un article dont on a eu la surprise de constater qu'il n'était pas paru dans Le Monde Libertaire, mais qu'il était paru dans un journal que nous avons l'habitude de dénigrer méchamment et qui s'appelle Le Quotidien Vespéral des Marchés, autrement dit Le Monde. Eh bien, dans Le Monde, daté de samedi dernier, il y avait un papier de notre ami. Je dis notre ami, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, nous l'avons invité déjà pour un certain nombre de ses bouquins, Patrick Declercq. Patrick Declercq a fait un papier sur le thème du blasphème comme nécessité. Et ce texte est particulièrement réjouissant, donc nous avons l'intention de vous le lire tout à l'heure. Voilà pour le blasphème relatif à la religion, quelle qu'elle soit, à toutes les religions qui, comme vous le verrez, ont un seul objectif, vous transformer en zombie, en abruti, en ectoplasme. Autre blasphème, nous avons eu la douloureuse surprise de lire dans Le Monde Libertaire, auquel vous vous êtes abonné, bien sûr, la douloureuse surprise de voir un nouveau papier, un nouveau pathos, un nouveau pavé d'un certain Pelletier sur le thème de l'écologie ou de l'écologisme, et qui lui aussi considère qu'il faut choisir entre l'anarchie et l'écologie, et qu'on ne peut pas en effet être à la fois anarchiste et en même temps soutenir des thèses écologistes comme celle de la décroissance dont on vous parle assez souvent dans cette émission ou dans Radio Libertaire. Nous avons aussi l'habitude d'inviter des personnages qui pratiquent l'écologie au quotidien, comme Monique Séné notamment, qui s'intéresse au nucléaire. Nous avons l'habitude aussi de souligner l'importance, les constats qu'on fait sur la dégradation des conditions de vie des hommes sur cette planète, avec des phénomènes assez exceptionnels comme la teinte à la couche d'ozone. Il est certain que les rayons du soleil deviennent de plus en plus brûlants et brillants. Le réchauffement climatique, les icebergs, enfin toute une série. Le phénomène aussi de la dégradation par la chimie, par une science sans conscience, tous ces phénomènes écologiques, nous avons l'habitude de les traiter et nous avons eu le triste constat de voir qu'il y avait deux papiers dans le Monde Libertaire de cette semaine et dans celui d'avant, décidément errare humanum est, perseverare diabolicum. Il est humain de se tromper, mais il est diabolique de continuer, de persévérer dans l'erreur. Eh bien, ces papiers de Pelletier sont d'une stupidité scandaleuse et nous avons bien l'intention d'en démonter les mécanismes parce qu'ils sont, bien sûr, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une simple obsession anti-écologique, qu'il s'agit en effet, comme ce personnage a déjà commis il y a une quinzaine d'années, un bouquin qui s'appelait L'imposture écologique. Effectivement, on pourrait considérer que ces coups d'humeur, ces coups de gueule contre les écologistes et contre les anarchistes aussi, hein, puisque s'ils ont le malheur de soutenir des thèses qui sont proches de celles de ceux qui, en effet, s'intéressent aux dégradations des conditions de l'environnement sur la Terre, et dans le ciel également, hein, dans l'air et dans l'eau, eh bien, effectivement, il n'aurait pas le label, selon Pelletier, de l'anarchie. Alors, on va pas blasphémer, mais on va souligner à quel point il faut se méfier de nos amis. Hein. Vous savez, le fameux dicton « Protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Alors voilà, on aura l'occasion aussi, dans le cadre du blasphème, de revenir sur ces comportements. D'ailleurs, c'est un peu aussi en rapport avec un certain nombre de propos qui sont tenus ou qui sont écrits dans nos publications ou sur notre radio sur la sacralisation de la classe ouvrière. Je pense en effet que aucun d'ailleurs des socialistes auxquels on fait référence, qu'il s'agisse de Proudhon qui soulignait l'importance de la variété des classes ouvrières, hein, il le soulignait d'une part, et puis en même temps il soulignait le fait que la massification, la généralisation ne pouvait souvent conduire qu'à des mécomptes, qu'à de graves difficultés. Et donc, il est certain que là encore, on va peut-être blasphémer à l'égard de ceux qui considèrent la classe ouvrière comme une unité intouchable, intangible, et comme dirait Marx, qui allait se choisir un parti pour exercer la dictature du prolétariat. On a vu ce que ça donnait en Russie, mais donc souligner à quel point cette conception, cette sacralisation est tout à fait non seulement inopérante, mais dangereuse, et quant à vouloir à tout prix non seulement la massifier et la globaliser dans une entité qui serait absolument sans faille, hein, ce qui est complètement faux, eh bien, ça relève non seulement de la religion, ça relève du sacré, mais ça relève aussi de l'exclusion des autres. Hein. Quand des déclassés, comme on les appelait au XIXe siècle, comme Blanqui, se battaient pour ses idées socialistes et pour ses compagnons de bataille ouvriers, artisans des classes populaires, eh bien, il soulignait lui aussi que la classe ouvrière, ça n'était pas du tout un bloc. Et lui-même, déclassé, puisque fils d'un sous-préfet désigné par Napoléon, effectivement, aurait pu être considéré aujourd'hui par certains qui méprisent les sociologues ou qui méprisent les intellectuels, aurait pu être considéré comme un personnage tout à fait inacceptable au sein de cette grande confrérie qui s'appellerait la classe ouvrière. Donc je crois que là encore, de la même façon, quand Pelletier, c'est parce que je parle de Blanqui, Pelletier fait référence à Proudhon et aux socialistes du XIXe siècle pour dire qu'eux, au moins, ils n'étaient pas écologistes et qu'ils se foutaient totalement des conditions dans lesquelles les hommes intervenaient sur la planète, eh bien, ils pourraient relire Blanqui, qui fait tout un papier
dans un de ses articles de Ni Dieu ni Maître, ou bien dans sa critique sociale, qui fait tout un papier sur la critique qui critique avec virulence le comportement des hommes de cette époque, qui chassent sans aucun scrupule les baleines, déjà à ce moment-là, qui détruisent des baleines, qui détruisent des forêts, c'était pas la forêt amazonienne, mais qui en effet se comportent avec la nature d'une façon tout à fait scandaleuse. Donc je crois que là encore, hein, on a à blasphémer sur un certain nombre de sujets, et je vais, avant de vous lire ce papier, hein, c'est un peu amusant aujourd'hui sur Radio Libertaire, on va vous lire un papier qui est paru dans Le Monde, et puis ensuite on va décortiquer méchamment, blasphématoirement, deux papiers qui sont parus dans Le Monde Libertaire. Gérard, veux-tu ajouter quelque chose ?
Jacques, alors, évidemment, ce matin, c'est ce qu'on a dit, hein, partir de bon, quelques précisions, peut-être aussi, voire pour l'écologie, on abordera ce thème ce matin, et c'était bon de rappeler, enfin, on reviendra peut-être sur un grand géographe, puisque là, nous vous parlerons de certains géographes ce matin, en particulier Élisée Reclus. Hein, de revoir ce que disait Élisée Reclus à cette époque-là. Alors ça a été toujours un thème important, la nature, et ce que l'on voudrait dire aussi, il n'y a pas de sacralisation, il n'y a pas aussi, vous savez, il y a les intégristes de tout poil, il y a des intégristes du côté des États-Unis, hein, puisque là aussi, relooker New Age, ou des sectes, vous le savez aussi, des sectes mormons qui ont été rejetés, une forme d'évolution, hein, en particulier qui pouvait continuer, eux, à vouloir se déplacer en diligence, quoi qu'on y revient, ou en chaise à porteur, ça c'est pour rigoler un petit peu. Donc là aussi, donc, les critiques que l'on essaiera de formuler, toute critique évidemment étant à faire, mais ça peut pas être le n'importe quoi, ça peut pas être l'à peu près, ça peut pas être l'amalgame. Alors on essaiera de s'en expliquer ce matin à partir de, faut le préciser, de deux articles qui ont été publiés dans Le Monde Libertaire, et en particulier Le Monde Libertaire donc de ce jour, et que je vous recommande, hein, le dire par rapport à sa publication, puisque sa publication c'est le jeudi, et donc vous pouvez le trouver dans tous les bons kiosques, et en particulier au 145 rue Amelot à Paris 11e, 145 rue Amelot. Vous pouvez aussi, c'est toujours mieux parce que c'est une possibilité de vous abonner, et on peut le recevoir quand on est abonné au Monde Libertaire. C'est un petit avantage pour certains, c'est de le recevoir le mercredi, hein, le mercredi, alors qu'on le trouve dans les kiosques que le jeudi. Alors, Le Monde Libertaire aussi, dans son éditorial, mais il y a plusieurs articles, hein, on vous les recommande, en particulier ce qui se passe actuellement au Mexique et dans la province de Oaxaca, j'espère que je prononce bien, mais cette province-là est en ébullition, cette province-là est en révolte. On pourrait dire aussi, il y a plus que ça, justement, quelque chose de révolutionnaire qui se passe là-bas. Et vous le savez, on vous le dit, les médias, c'est le silence général, hein. Il n'y a pas du tout d'informations, puisqu'il y a eu des événements graves qui se sont passés dimanche et ou lundi. Là aussi, la possibilité, Indy Media, vous le savez, ou sur Internet, d'aller chercher des sites où il y a une information. Donc, il y a quelque chose de très, très dur. C'était aussi, ça ne nous déplaît pas, il y a eu des... En particulier, le fait de demander la révocabilité de celui qui actuellement a ce poste, qui occupe ce poste de gouverneur par rapport à cette province, et qui dit, là encore, puisqu'on va blasphémer, qu'il n'en partira pas par la force des baïonnettes, mais simplement si Dieu le lui demande. Hein. Donc, vous voyez, ce matin, Dieu va être présent, justement, parce qu'il est un peu partout et un peu nulle part. Et pour dire aussi, qu'en ce qui concerne cette révolte, et au départ... qui est en train de tourner à des transformations aussi, qui peut aboutir à des transformations radicales de l'organisation sociale pour cette province, eh bien là aussi, l'origine, on le verra peut-être ce matin si on passe un petit texte de Gaston Coutet, interprété, c'est-à-dire l'école, sur l'école, c'est parti là-bas des instituteurs et des professeurs qui ont fédéré justement tout un tas de révoltes qui se sont créées, qui ont créé une assemblée populaire. Et là aussi, de voir que c'est parti justement d'une frange de la population, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici, et là-bas c'était un petit peu la même chose, une organisation qui ressemble étrangement à une éducation nationale. Une éducation nationale qui existe au Mexique et qui a fait que beaucoup d'instituteurs et de professeurs ont trouvé inacceptables les conditions sociales, pas simplement leurs propres conditions de rémunération, et qui se sont révoltés. Donc ça, c'était un point à souligner pour ce qui est de la révolte. Et d'autre part, une façon aussi, vous pourrez voir dans Le Monde Libertaire de ce jour, relire l'éditorial, lire l'éditorial du Monde Libertaire de ce jour, où justement, on nous parle que les grands, les exploiteurs de cette planète voudraient simplement voir en chacun d'entre nous des producteurs consommateurs, Et non des individus, et on est bien d'accord, et moi je suis bien d'accord évidemment à cette position de dire qu'avant tout, nous sommes des individus, sans rappeler quelquefois la petite rubrique régulière et régulière sur le travail rang libre que l'on fait dans cette émission, et simplement de dire que le fait d'être ouvrier, puisque tu l'as évoqué Jacques ce matin, la constitution même de l'identité d'un individu, ce n'est pas sa fonction, s'il l'a encore choisi, mais si c'est une fonction subie, si c'est la fonction première, si tu veux, ce n'est pas son identité. Son identité, ne n'oublions pas, dans la formulation même, comme on dit certains, avec le langage, penser en une langue, hein, c'est quelquefois s'exprimer en une langue, c'est quelquefois penser dans cette langue. Et la grande différence, par exemple, en Italie, puisque je parlais des instituteurs, on ne dit pas là-bas, quelqu'un ne dit pas là-bas, un individu ne dit pas « je suis instituteur, mais je fais instituteur ». Donc c'est quand même très important. C'est plus qu'une nuance, hein, c'est plus que c'est dans un propos anarchiste, c'est-à-dire avant tout, nous sommes des individus, nous sommes des personnes, et puis selon les circonstances économiques, les circonstances sociales, les circonstances historiques, les circonstances, vous le savez bien, en plus de ça national, puisqu'on est, on ne choisit pas le lieu de naissance. Donc toutes ces identités qu'on nous colle sur la peau, eh bien évidemment après il faut peut-être éviter de les revendiquer, surtout quand on les a pas choisis. Alors peut-être on développera ça ce matin, puisque c'est un peu notre propos au travers de ces deux articles dans Le Monde Libertaire, en particulier sur qui abordent la question du réchauffement, plus particulièrement qui serait le réchauffement climatique, hein, ce qu'on appelle réchauffement global, le réchauffement de l'ensemble de la planète dû aux émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre. Donc cette question-là, c'est-à-dire que la remise en question de dire bah, c'est peut-être pas aussi grave que ça et c'est peut-être pas comme nous le présente l'ensemble des médias dominants, l'ensemble des institutions dominantes dans la société capitaliste, et ça, il faut évidemment y réfléchir. Donc ce thème-là, Jacques, on va l'aborder, et puis et aussi, eh bien, au travers du blasphème, hein, puisque à partir du texte que l'on a cité de Patrick Declercq, qui était venu dans cette émission donc de Chronique Hebdo, pour évoquer la situation de ceux qui souffrent plus que ça dans ce pays, qui sont condamnés à mort par la guerre économique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sans-abri, ou d'autres, l'appellation du gouvernement,
SDF.
Les SDF, voilà, appellation énarchique, celle-là. Et donc, pour un ouvrage
qui s'appelle... Il était venu l'année dernière.
Oui, voilà, exactement, qui s'appelle... Alors, cet ouvrage, il faut le citer, puisque vous pouvez quand même le trouver dans les librairies, enfin, les vraies librairies, celles qui n'évacuent pas, au bout d'un mois, évidemment, des livres intéressants pour remettre 90% de conneries, hein, puisque maintenant, c'est devenu de l'écriture industrielle. C'est écrit par beaucoup d'ordinateurs. Alors en tout cas, pour Patrick Declercq, son ouvrage « Le sang nouveau, C'est un titre quand même, on va le dire, provocateur. C'est toujours comme ça, j'entends partout le mot provocation, comme si justement ceux qui sont responsables du crime n'étaient pas les vrais provocateurs. Alors le sang nouveau est arrivé à la suite d'un ouvrage qui avait été publié il y a 5-6 ans, qui s'appelle « Les naufragés ». « Les naufragés », donc c'était un gros bouquin paru à la collection « Terre humaine ». Et ce gros bouquin-là, avec des photos à l'appui, enfin des photos aussi très intéressantes, très importantes, aussi montrer la situation qui ne s'est pas arrangée, qui a même empiré, puisque depuis l'année dernière, ça a continué, rien n'a été fait. Donc sur cette situation, c'est-à-dire cette exclusion, et le mot n'est pas celui-là, puisque vous savez que les exclus, c'est la nouvelle façon de, on pourrait dire les victimes, plutôt les victimes de la guerre économique, les victimes du capitalisme, les victimes de ce tsunami capitaliste qui ravage l'ensemble des sociétés industrielles et qui met des centaines de millions, milliers de gens à la rue, ou qui met des millions de gens, comme on appelle ça dans la précarité, même si encore le mot, il faudrait l'analyser de ce que ça veut dire, précarité, hein, dans ce terme religieux, puisque ce matin on va blasphémer. Il y a, dans précaire, il y a le mot prière, il ne faut pas l'oublier, puisque tout notre vocabulaire est quand même largement imprégné à la sauce religieuse, hein, en tout cas, il faut le dire par rapport à ça. Mais des gens qui sont victimes, plutôt, qui sont, ont été spoliés, ont été démunis, c'est-à-dire ils ont été pillés, ils ont été détroussés, ils ont été volés, ils ont été vilipendés par justement une catégorie, l'ensemble de ces représentants des multinationales et puis de tous leurs laquais, de tous leurs valets qui sont dans les institutions, comme on dit, représentatives, comme diraient les autres, c'est-à-dire l'ensemble des politiciens de métier et toute la petite cohorte autour et puis de tous ces médiatiques de la propagande du système capitaliste, évidemment, qui n'abordent pas ces thèmes-là, ces sujets-là. Et comme on vous l'a dit déjà la semaine dernière en disant que le système médiatique emploie la langue orwellienne, c'est-à-dire les mots du marché, du système, c'est-à-dire qui sont des mots aussi embusqués et qui cachent la réalité du monde. Il n'y a pas simplement les images qui cachent la réalité du monde, mais le vocabulaire de la propagande cache la réalité du monde. Donc avec Patrick Declercq, qui s'y essaie, en tout du moins, avec ses deux ouvrages, et qui, quelquefois, donne des articles, des papiers dans différentes revues et dans différents journaux. Et on était un peu étonnés que le monde, qui est de plus en plus catholique, parce qu'on dit le quotidien vespéral des marchés, mais on verra pour ce matin, pour le monde du jeudi 30 novembre 2006, comme on l'appelle, la Pravda du capitaliste, hein, vous savez, nous sommes tous américains, est de plus en plus catholique, puisque la première page, eh bien, on voit la tête du Benoît, la tête du Benoît, entouré de ses gardes du corps, enturbanné, enfin bon, on verra ça ce matin, on va revenir sur cette première page, puisqu'on va blasphémer, et puis aussi, vous savez, soi-disant, la controverse autour du Téléthon, on l'appelait ça le Télécon, hein, Télécon parce que là, encore une fois, c'est la charité chrétienne, la charité catho, comment on essaie d'abuser l'ensemble de la population en leur disant bah, faut faire la quête, hein, une fois 24 heures, 48 heures avec tous les médias, une fois par an, pour donner à la recherche médicale, pour essayer de soigner les myopathies. Mais je pense que depuis qu'on essaie de soigner les myopathies, en tout cas les myopathes de la tête, les myopathes des neurones, on va être un peu blasphémateur ce matin, ne sont pas, on n'est pas arrivé, on le voit de plus en plus, à les soigner. Et simplement pour l'histoire du Téléthon, évidemment, cette critique, comme toutes ces associations charitables, hein, puisque simplement le coût payé par l'ensemble de nos impôts d'un avion militaire, c'est à peu près le budget, ou un petit peu moins, ramassé pour le Téléthon. Donc on voit que c'est une escroquerie, une véritable arnaque, mais c'est une escroquerie religieuse, c'est une charité, et on verra que les cathos, hein, les associations catholiques, et puis on parlait du Benoît XVI, ils ont tous des numéros, l'Armand 23, vous savez, l'archevêque de Paris, eh ben, il n'est pas d'accord avec d'autres, parce que le Téléthon, il trouve que ça prend des drôles d'allures, et en particulier ça irait vers l'eugénisme, mais ça irait surtout que ça empiéterait peut-être sur leur fonds de commerce, qui est la charité, qui est le contraire, évidemment, vous le savez bien, de la justice. Et donc, le monde, le monde catholique, puisque vous savez, la vie, c'était la vie catholique, ils ont barré le mot catholique, c'est plus que la vie maintenant. Donc, le monde catholique aborde ces sujets, et on reviendra, Jacques, sur ces sujets-là ce matin. Voilà.
Bon, alors, peut-être qu'on va commencer par le blasphème contre les religions.
Voilà.
Alors, je vais vous lire... le papier qui est paru dans Le Monde, daté de samedi dernier, et qui est signé par Patrick Neuclair, et ce papier s'intitule « Du blasphème comme nécessité ». À propos de l'affaire Robert Hodecker, vous savez, ce professeur de philosophie menacé de mort après avoir osé critiquer l'islam dans une tribune parue dans Le Figaro, le ministre Renaud Denedieu de Vabre, successeur d'André Malraux, il paraît que c'est un ministre de la Culture, s'est, le 20 novembre, cru obligé de rappeler, entre guillemets, le devoir de responsabilité aux élites. La science, précise-t-il, peut aussi être mise au service de l'intelligence, pas de la caricature. Comme si, en effet, l'intelligence n'était pas particulièrement bien représentée dans la caricature. Enfin, c'est un propos de ministre, il ne faut pas s'en étonner. Et tout en trouvant, évidemment, « honteux », entre guillemets, que M. Hodecker ait été menacé de mort, il a reproché à la tribune signée par ce dernier de ne pas être sophistiqué. « Je ne sais trop, écrit donc Patrick Neuclair, je ne sais trop ce que le ministre de la Culture entend par les élites. Je sais encore moins, au vu de ses propos chatmites, ce qu'il veut dire au juste par devoir de responsabilité. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'après Nietzsche et Freud, il est difficile à un lettré de considérer autrement le fait religieux que comme une béquille métaphysique. Ouais. » à l'usage des esprits épuisés, que l'inéluctabilité de la mort et l'horreur de la corruption des corps effraient au-delà de ce que leur faiblesse peut supporter. Cette terreur les conduit alors à bricoler pauvrement des arrière-mondes consolateurs de misère. D'ici-bas, un ici-bas dévalué au profit de promesses eschatologiques de rédemption post-mortem. Monnaie de singe avec laquelle les prêtres et la divinité récompensent les comportements dits, entre guillemets, moraux, dont la toxicité et la folie se déclinent du simple jeûne à l'auto-immolation en passant par les mutilations sexuelles. Les religions, toutes les religions, sont ainsi des délires de l'humanité et comme le démontre ad nauseam l'histoire et l'actualité, ces religions sont des délires dangereux. Non seulement on ne voit pas en quoi il serait, entre guillemets, responsable de taire une telle position critique, mais il apparaît au contraire que le devoir le plus élémentaire est de lutter contre ces entreprises d'essence mortifère que sont les religions. Non seulement il ne leur est dû aucun respect intellectuel et éthique, au-delà du cadre légal de l'exercice de la liberté du culte, mais encore convient-il de les combattre philosophiquement en en dénonçant, chaque fois que faire se peut, l'imbécilité, la fausseté, la dangerosité, l'escroquerie et le grotesque profond. Ridiculiser la religion est une vertu. Le blasphème a stricto sensu, à propos duquel il faut d'ailleurs rappeler la notion logique et théologique élémentaire qu'il ne concerne stricto sensu que le croyant lui-même, le blasphème est plus que jamais non seulement excusable, mais nécessaire. Il doit être clairement et hautement revendiqué en tant que droit. Par ailleurs, si le fait religieux peut en toute légitimité être objet d'anthropologie, de sociologie ou d'histoire, la science, entre guillemets, même dans la version précautionneusement désincarnée et châtrée à laquelle semble rêvasser le ministre de la Culture, La science confrontée à la réalité objective des contenus de croyances, tels par exemple la résurrection d'un crucifié, telle l'exigence de l'ablation du prépuce comme signe de reconnaissance divine, ou l'efficacité de la lapidation de Satan à la Mecque, la science, entre guillemets, n'a pas fini de rigoler. Quant à la sophistication, entre guillemets, réclamée par M. Donne-Dieu de Vabre, ministre de la Culture, et ses émules, elle n'est que le masque de la litote, une litote méprisable, parce que lâche à ses humanistes d'un nouveau Munich, entre parenthèses, accord entre Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler le 30 septembre 1938, qui ont permis l'invasion allemande de la Tchécoslovaquie, à ces humanistes, à ces bradeurs de 5 siècles de lutte occidentale pour banaliser de l'inacceptable, à ces colporteurs de gnan-gnan orientalistes, rappelons que parce que la communauté musulmane néerlandaise a l'atroce nouvelle de l'assassinat de Theo van Gogh, ils furent à peine 200 à crier leur indignation à La Haye, le 6 novembre 2004, l'immense majorité des 900 000 autres musulmans, terrassés, il faut croire, par une indicible émotion, restèrent chez eux. J'ai déjà eu l'occasion de dire, dans ces colonnes, ma détestation de l'islam en particulier, et des autres monothéismes en général, je persiste et signe. Voilà, Patrick Declercq.
Voilà, Jacques, eh bien, évidemment, persiste et signe. Moi, je dirais, avec, hein, persister, signer avec. Alors, pour ce qui était arrivé, ce qui est arrivé aux Pays-Bas, en tout cas pour l'assassinat de Theo van Gogh, on en avait parlé un petit peu dans cette émission. C'est vrai que ça n'avait pas remué beaucoup de gens, hein, puisque, encore une fois, on considérait peut-être que c'était un cinéaste et que ça n'intéressait pas beaucoup de gens qu'il soit massacré, enfin qu'il ait été assassiné. Il faisait de la bicyclette, hein, aussi. Faut le dire, il était en vélo dans la rue et donc il a été poursuivi, je pense, et poignardé. Voilà ce qui est arrivé à Theo van Gogh. Et là aussi, la même chose, ça n'a pas remué beaucoup les foules. Comme il dit, en ce qui concerne cette communauté-là, par rapport peut-être que c'est dans la tradition, hein, puisqu'on va blasphémer ce matin, c'est quand même dans la tradition de passer... on le voit, ce qui peut se passer actuellement en Irak, entre les sites, et entre les chiites plutôt, et les sunnites, hein, ce massacre, encore une fois. Moi, je pensais aussi, puisque on parlait du blasphème, cette journaliste, cette femme en Russie, qui a été assassinée aussi par une bande de mafia, hein, Politkovskaya, si je me trompe pas, par rapport à son nom. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens que ça a ému, alors qu'évidemment, Madame Diana, comme j'appelle le syndrome Diana, comment on a manipulé les foules religieusement, hein, médiatiquement, la religion cathodique avait fonctionné là, et donc des milliers de gens, ils pleuraient, hein, on les voyait un peu partout, que ce soit en Grande-Bretagne, en Angleterre, que ce soit... dans différents pays d'Europe, hein, ça a duré quand même assez longtemps, un accident de la route, comme l'autre avait dit d'une princesse, vous vous souvenez, Madame Grace Kelly, ça avait coûté sa place à Bernard Langlois, qui avait dit « la planète a continué à tourner, c'est un accident de la route hein. ». Bon, c'est triste pour un individu, c'est vrai qu'un individu, quand il disparaît, c'est triste, mais là, on s'attaque quand même aux fonctions. Si on s'attaque aux fonctions, on ne s'attaque pas aux individus personnellement, on s'attaque aux fonctions de princesse, hein. Comme là, en tout cas pour Diana et puis pour Grace Kelly, le lien avec ça, c'est la religion, c'est une autre religion. C'est la religion des grands de ce monde, c'est la starisation, ce sont des stars, ce sont des étoiles, c'est une autre façon de voir, de faire des propositions, comme on essaie de stariser... Puisqu'une autre étoile ou une star ou une sainte, on essaie de sanctifier le politicien, hein, le politicien ou la politicienne, comme Madame Ségolène Royal. On va voir ça, là, puisque on est quand même dans un phénomène religieux. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ce matin. Évidemment, ces choses-là, en apparence, qui ne vont pas ensemble sont totalement liés.
Comme notre slogan, ni Dieu ni maître. Voilà. Hein, pas de Dieu, pas de maître.
Alors Jacques, c'est sûr que pour Patrick de Clercq, eh bien en tout cas, ça n'avait pas fait l'objet à l'époque de beaucoup de... Quand je te le disais, pour Théo Van Gogh, il a le mérite de le rappeler. Là, évidemment, il s'en prend à l'ensemble des monothéistes. Celui qui est le plus peut-être belliqueux actuellement, hargneux, eh bien, on sait lequel c'est, hein, c'est à vous de le trouver. Mais quand on le voit, le Benoît, là, qui est parti en Turquie avec toute sa bande, et de la même manière, comment ça nous est montré par la religion catholique, hein, puisque tous les reportages par rapport à ça peuvent nous montrer qu'on n'en a rien à foutre de... Moi, je te disais ce matin, c'est un chef d'État, et puis chef de cette secte répugnante, hein, cette secte qui, finalement, qui nous blasphème en permanence, parce que certains l'ont dit des fois, quand on voit l'acrobate, quand on voit le crucifié, quand on voit quelqu'un qu'on a torturé, qu'on présente ça, évidemment, aux enfants, allons dans les cimetières, hein, faire un petit tour. Enfin, quand tu vois, moi, j'y suis allé il y a quelques jours, il y a des croix absolument partout. Mais on a l'impression que c'est mis sur la vie, c'est des croix enfoncées dans la vie. Alors, dire que ça, on présente ça aux enfants, ben on pourrait dire, mais c'est dégueulasse de présenter quelqu'un de supplicié, de torturer un enfant de quelques années, de lui montrer clouté comme on l'a fait. Alors voilà cette secte absolument répugnante qui reprend du poil de la bête, on pourrait dire, dans cette société. C'est absolument à tous les plans qu'on peut l'entendre, donc elle se réactive. On nous a parlé de Benoît, en particulier son discours, puisqu'il s'attaquait, comme on dit, à l'hypermarché d'en face. Hein, c'est toutes ces bandes d'hypermarchés qui veulent prendre, qui veulent l'hégémonie, assurer l'hégémonie sur l'ensemble de la planète. Alors ce matin, quand même, je voyais quand même quelque chose, puisque c'était dans la première page du Monde. Eh bien, le défi des humoristes irakiens. Alors on avait dire quand même en Irak, il y a des humoristes, vous rendez compte ce qu'ils peuvent risquer? Eh bien oui, il y a un comédien qui a osé aussi se moquer. Il se moque un peu des sunnites, peut-être des chiites, d'une forme de religion, mais très légèrement. Il se moque aussi de la situation, ce qui se passe dans ce pays, hein, par rapport à la catastrophe qu'il peut y avoir dans ce pays. Eh bien on l'a attendu, je crois qu'à la sortie d'un studio, et puis on l'a zigouillé. Alors là encore, on dit c'est des groupes religieux et des milices, hein, des milices soit sunnites, chiites, je ne sais pas. En tout cas, pour voir cet article-là, et lui avait osé justement un peu mettre une note d'humour. Alors on peut imaginer la difficulté de mettre une note d'humour et de rire à Bagdad. Eh bien, on l'a dégommé. Et là, on voit bien par rapport à ça. J'avais envie de dire ça ce matin, que tous ceux qui ont plus ou moins un relais avec ces religions, que ce soit l'ensemble de ces monothéismes, hein, puisque pour ici c'est la même chose, eh ben je veux dire, malgré tout, consciemment ou inconsciemment, ils entretiennent une complicité avec ces tueurs. Ils ont une complicité, un relais avec ces tueurs, parce que ces religions de l'obscurantisme, ces religions du refoulement, comme nous parle Patrick de Clercq, hein, toutes ces béquilles par rapport qui vont vers le fait d'éteindre la pensée critique, d'éteindre le moindre façon de réfléchir d'un individu, eh bien c'est une forme de collaboration, on pourrait dire tacite, c'est-à-dire volontaire ou involontaire, avec le crime permanent que sont les religions.
Oui, mais quand tu dis ça, collaboration avec le crime permanent, des gens qui se comportent comme on a vu qu'ils le font tous les jours, cette guerre civile irakienne, mais c'est aussi cette bêtise, cette annihilation de la pensée critique dans l'individu. Comme Blanqui le soulignait, il y a un assassin potentiel dans un religieux convaincu. Et donc, c'est pas seulement de la bêtise, c'est pas seulement de l'abaissement de la pensée, c'est pas seulement l'étouffement de la capacité critique, c'est aussi directement lié l'arme dans la main, l'assassinat de celui qui pense pas pareil, le crime. Donc, quand le... Le religieux convaincu n'assassine pas directement celui qui ne pense pas pareil que lui. C'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il est simplement dans l'impossibilité pratique de le faire. Mais il y a, et c'est certain, une possibilité, une potentialité de crime dans la croyance en un dieu, en une divinité. Et on le voit bien, en effet, avec la guerre civile en Irak, puisque ayant même la même référence à Mahomet, ils arrivent sous prétexte qu'il y en a un qui dit ben non, c'était plutôt le prophète Ali, et puis l'autre qui dit non, c'était pas Ali, c'était Schichter Schmutz, qui était le vrai prophète de Mahomet, et bien, ou le vrai descendant du prophète Mahomet. Eh bien, ça suffit pour les faire qu'ils se comportent comme des criminels. Et quand ce ne sont pas eux qui assassinent directement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils collaborent étroitement, ils soutiennent, ils aident ceux qui portent les kalachnikovs ou bien les machettes. Donc on peut en effet les considérer comme des assassins potentiels.
Sur
puisque,
ce thème-là,
puisque tu parlais de religion tout à l'heure, oui. Et à propos de l'adoration des hommes ou des femmes politiques, je voudrais à nouveau, on l'a fait souvent ici, rappeler le texte qu'avait fait Bourdieu sur la religion, le vote, la délégation de pouvoir comme phénomène religieux.
Voilà. Alors donc on n'abordera pas le monsieur, peut-être on en parlera un petit peu, l'effet. L'effet sainte sanctification.
Oui, ça vaut le coup d'en dire un mot, puisque l'horrible petit personnage, le petit nabo napoléonien, vient de déclarer qu'il était candidat à la présidence de la
avec sa rupture tranquille. Alors, c'est peut-être le coitus interruptus, je ne sais pas, la rupture tranquille.
Un policier comme chef d'État, c'est ce
bien.
Qui attend tous ceux qui sont soumis à un maître ou à un dieu.
Ben, c'est bien, puisque policier, quand même, pour la Russie, c'est le KGB, un ancien du KGB. Et puis, pour la boucherie, de l'autre côté, aux États-Unis, c'est un fils de boucher, c'est un fils, quand même, d'un ancien FBI, de Monsieur Bush, père. Monsieur Bushbert. Donc, on reste quand même en bonne compagnie. On disait ce matin pour les chefs d'État, et puis le chef d'État, le Benoît, eh ben, lui aussi, c'est un criminel en puissance, puisque c'est un chef d'État. Alors voilà, ce matin, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est la radio du blasphème, de 10h30 à midi. Et donc, si vous voulez nous appeler, alors, vous pouvez aussi écouter, on vous le dit, Radio Libertaire. Sur Internet, et vous avez la possibilité, quand même, il faut le rappeler, la nuit ou à d'autres moments, de pouvoir réécouter cette émission. Je vous donnerai le numéro, le site sur Internet à la fin de cette émission-là. Donc c'est quand même, pour l'ensemble des émissions de Radio Libertaire, de pouvoir les réécouter, parce que quelquefois, des auditeurs nous ont dit, bah, tiens, la nuit, c'est pas mal, si vous pouviez avoir une retransmission de ces émissions, plutôt que des émissions quelquefois ou des bandes sans fin musicales, enfin, il en faut pour tout le monde. Et donc, c'est une possibilité que vous avez de pouvoir écouter Radio Libertaire sur Internet à tout moment. Voilà, cette émission. Et donc, le numéro du studio, puisque c'est la première émission en direct de la matinée sur Radio Libertaire, 89.4 pour l'Île-de-France, nous appelez au 01 43 71 89 40.
Je n'ai jamais eu l'envie particulière
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire et on a eu quelques coups de fil. Vous nous avez notamment, un auditeur nous a demandé de blasphémer contre le ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Monsieur de Robien et qui a décidé, en tout cas qui a lancé comme projet, qui semble-t-il a déjà été très non pas appliquées en pratique, mais qui risquent de l'être rapidement. Il y a d'ailleurs eu une manifestation hier à Paris dont personne n'a parlé, d'un certain nombre d'enseignants. Effectivement, même Radio Libertaire n'était pas au courant. Manifestation pour la raison suivante. Le ministre Robien a décidé de faire disparaître la particularité, la spécialité de chaque professeur, c'est-à-dire qu'il veut maintenant transformer les professeurs en espèces de personnages polyvalents qui seront chargés d'enseigner aussi bien le français que les mathématiques ou la gymnastique sans aucune limite, c'est-à-dire qu'au fond, ce sera des gardiens d'écoliers avec quelques rudiments de connaissances sur tel ou tel sujet. C'est-à-dire qu'au fond, ils seront considérés comme des polyvalents qui n'ont appris quelque chose que pour leur plaisir, mais qui devront en quelque sorte apprendre n'importe quoi, même s'ils le connaissent mal ou s'ils n'ont aucun goût pour cette matière, pour cette discipline, ils devront apprendre n'importe quoi. Alors je pense qu'en effet, cet auditeur nous disait que c'est parmi les entreprises de destruction de l'école, parmi les entreprises de démolition du système scolaire, eh ben c'est un nouvel élément, j'allais dire c'est une nouvelle pierre, sinon que c'est une pierre qu'on enlève un peu plus à cette éducation, à cette instruction qui malheureusement, depuis Jules Ferry, n'a fait que se dégrader, n'a fait que se transformer en un mécanisme de domestication des esprits, et plus ils sont jeunes, plus cela vaut. Plus cela est facile et en même temps marque un individu pour de longues années. Cet auditeur aussi ajoutait que finalement, les professeurs aujourd'hui, en tout cas selon lui, bien que ces 2000 manifestants se soient manifestés hier, les professeurs sont malheureusement trop passifs. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec assez de virulence à cette entreprise. Alors c'est sûr que l'entreprise d'anéantissement de l'esprit critique, qui est le propre de l'éducation nationale, a touché aussi les professeurs et qui se retrouvent simplement comme des fonctionnaires soumis à une administration.
Voilà Jacques, alors avant de passer, donc, on va passer ce matin, on vous l'avait dit, donc le deuxième sujet, les articles de Philippe Pelletier du Monde Libertaire, enfin articulier de ce jour et de la semaine dernière. Un auditeur, une réaction d'un auditeur, puisqu'il écoutait le blasphème, hein, vous savez, c'est quand même le thème ce matin. Alors, vous savez, quand même, dans la flicaille, de plus en plus, hein, au travers des téléfilms, des films, on envahit, c'est la marée bleue partout. Alors, en particulier, les feuilletons, c'est-à-dire la police scientifique. Et lui, il avait quand même quelque chose à nous révéler ce matin pour la Sainte Diana. Sainte Diana qui est morte, vous le savez quand même, c'était il y a quelques années, dans un souterrain de la capitale parisienne. Eh bien, les résultats de l'enquête, hein, c'est pas tellement, paraît-il, pour le conducteur. Voilà ce qu'il m'a dit après de longues recherches. Le béton armé français, paraît-il, est plus dur que l'acier allemand. Voilà, c'est la suite, il m'a dit, des recherches qui ont été faites. Alors, comme on voulait blasphémer pour Sainte Diana, et puis rigoler un petit peu par rapport à ça, puisque, vous savez, donc c'est quand même la marchandise qui compte, et le cocorico, en parlant du béton français qui résiste à l'acier allemand et qui va raviver les vieilles querelles qui ont, là encore une fois, mené au massacre, vous le savez, entre ces deux nations. Encore une fois, sur le nationalisme, sur cette autre religion nationaliste qui est aussi développée dans nos sociétés et inoculée par l'école républicaine, ce nationalisme terrifiant, hein, inoculé par toutes les écoles, enfin on peut dire énormément de sociétés, mais en particulier dans la société française. Voilà Jacques, cette réaction de cet auditeur. Avant de blasphémer à notre tour, on va continuer ce matin les deux articles publiés dans Le Monde Libertaire par rapport au réchauffement climatique. Voilà.
D'accord. Eh bien, alors, effectivement, ces deux papiers de Philippe Pelletier sont pesants, lourds, ce sont des pavés. On pourrait les résumer en disant il faut choisir entre être anarchiste ou être écologiste, entre partisans d'une planète dans laquelle les hommes sont traités et se traitent mutuellement d'une façon juste, d'une façon égale, se respectant la dignité de chacun, ou bien une planète dans laquelle les hommes ne sont plus considérés que comme des comme des pions dans la nature. C'est la théorie de monsieur Pelletier. Écologie ou anarchie, il faut choisir. Alors déjà, dans cette façon de présenter les choses, c'est d'ailleurs un texte. C'est un texte qui est vieux comme le monde, enfin comme le monde, il date de 1993. À cette époque, M. Pelletier avait fait un bouquin, une brochure qui s'appelait « L'imposture écologique », qui a évidemment suscité aussi beaucoup de critiques, puisque c'est le même fonds de commerce qu'il exploite donc depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire la hargne contre ceux qui se considèrent que le comportement humain a des conséquences sur les équilibres naturels, sur le fonctionnement de la planète, sur le réchauffement, sur la pollution des mers, sur toute une série de phénomènes, sur la pollution des nappes phréatiques, sur la pollution des airs aussi, et puis fameuse couche d'ozone qui, effectivement, a une influence sur le comportement du soleil. Donc, pour lui, ceux qui se préoccupent de cela sont des personnages qui, au fond, n'ont rien à voir avec l'anarchie et qui sont des réactionnaires, sont des rétrogrades et puis font dans le catastrophisme. Alors, dans les deux articles qu'il a commis pour le monde libertaire, M. Pelletier nous parle d'attaques. Il attaque du moins lui-même la télévision, les journalistes de télévision qui effectivement mettent en valeur les phénomènes de réchauffement. Il attaque aussi les hommes politiques. Il attaque tous ceux qui récupère en quelque sorte les thèses écologiques pour faire valoir et pour faire du fric, hein. Et donc il est absolument évident que les comportements de Schwarzenegger, les comportements des gens qui ont fait le sommet de Kyoto, les comportements des États capitalistes sont simplement ou bien de la poudre aux yeux pour ne rien faire. Hein. Monsieur Schwarzenegger va diminuer la vitesse des voitures ou bien leur puissance, ou bien effectivement, comme l'a annoncé un organisme qui a fait des études financières, eh bien investir plusieurs dizaines de milliards pour effectivement contrôler et faire du fric avec, en effet, ces fameuses thèses écologiques. Alors que les journalistes de télé soient aux ordres, en effet, de ceux qui les payent et fassent dans ce qu'appelle Pelletier du catastrophisme, dans un intérêt bien évidemment, que les capitalistes récupèrent les thèses écologiques pour faire des affaires, c'est naturel, que les politiciens s'en servent aussi pour garder le pouvoir ou l'avoir. Il y avait encore aujourd'hui des magouilles chez les politiciens de l'écologie. Monsieur Cochet veut abandonner Madame Voynet, qui est candidate à la présidence de la République. Enfin, on a toujours, en effet, c'est pour ça que je dis que c'est des pétards mouillés, parce que tous ces éléments-là, ils sont évidemment connus. On sait très bien qu'un politicien, il est d'abord un politicien, et que les discours qu'il peut tenir sur la dangerosité du système capitaliste qui détruit, qui abîme d'une façon irréversible toute une partie de la planète, ces discours sont des discours de pure convention, de pure convenance, simplement pour attirer l'électorat, pour dire « Ah ben oui, il faut faire quelque chose, on va élire Mme Voynet sénatrice, par exemple. » Et on sait bien que ça n'a rien à voir avec les positions des anarchistes. De la même façon, quand M. Pelletier, et là on peut parler de ringardise, nous parle du catastrophisme comme un moteur d'une action capitaliste et politicienne, et que ce moteur, il l'applique aussi en disant ben oui, il y a des anarchistes sincères qui eux aussi tombent dans ce catastrophisme. Or, il est bien évident qu'il faut être complètement ringard pour oser dire que les anarchistes ont à aucun moment fait du catastrophisme. On ne fait pas du catastrophisme quand on dit qu'il y a un réchauffement de la planète, quand on constate des visus soi-même, que l'air est pollué, qu'en effet, que les mers le sont. C'est pas du catastrophisme, c'est simplement un constat. Et en tout cas, ni la pensée, ni la morale, ni l'action des anarchistes n'ont rien à voir avec cette notion de catastrophisme qui a fait l'objet de ce deuxième papier du ringard Pelletier. Enfin, il y a une imposture, un trompe-couillon, on pourrait l'appeler, M. Pelletier, quand il nous... Et c'est pas nouveau, c'est ça qui est triste, c'est qu'en plus, non seulement c'est ringard, mais c'est vieux et usé, son discours. Non seulement il nous dit que l'écologie, c'est le pétainisme, hein, parce sous prétexte que Pétain a prôné le retour à la Terre, hein, alors donc, si vous êtes écologiste, si vous défendez des thèses sur les écologie, vous êtes un vulgaire pétainiste. Il va même plus loin. Il considère que vous êtes un fasciste. Et son discours et sa démonstration est d'une bêtise accablante. Il l'a déjà fait donc il y a au moins une douzaine d'années. Il dit, voilà, quand on défend la nature et la terre, ça veut dire qu'on ne se préoccupe pas des idées et des hommes. Les écologistes ne se situent pas, dit-il, à gauche, mais en travers. Alors, et il ajoute, et les anarchistes, est-ce qu'ils sont à gauche ou est-ce qu'ils sont en travers? D'ailleurs, lui aussi dit qu'il est ni à gauche ni à droite, mais en travers. Et alors, il ajoute, Pelletier, un seul mouvement à utiliser, à installer cette position en travers, hein, avec des gros titres, c'est le fascisme. Alors, quand on voit ce genre de discours, on peut dire qu'il est traversé par une sottise, par une bêtise absolument incommensurable. Et quant à dire que les anarchistes ou certains d'entre eux, comme tous nos amis qui développent les idées antinucléaires ou qui ont développé ici des thèses sur la décroissance et qui rejoignent évidemment absolument ce qu'il y a à faire contre le capitalisme, hein. Il ne s'agit pas en effet de brandir l'écologie en disant ben voilà, les capitalistes sont capables de soutenir des thèses et d'arrêter de privilégier le profit au profit le profit financier au profit des intérêts de l'ensemble des hommes sur cette planète, hein. Il est certain qu'ils s'en foutent complètement. L'appauvrissement, le pillage des richesses du sol, du sous-sol et des mers, ce pillage-là, il est effectivement fait par les États qui gouvernent, par les politiciens qui gouvernent, par les multinationales. Il n'a évidemment rien à voir avec ce qu'on peut considérer comme une nécessité de trouver d'autres modes de fonctionnement des sociétés, d'autres modes de fonctionnement de l'économie, d'arriver à se battre pour une société qui ne sera pas celle du gaspillage. Parce que quand on voit que tout bêtement, que si vous achetez une machine à laver aujourd'hui, elle va durer 5 ans, si vous l'aviez achetée il y a 50 ans, elle durait 25 ans. Donc tout ce phénomène-là, qui est totalement nié par M. Pelletier, est absolument évident. Donc quand il... suggère, et même il le dit, il écrit que certains anarchistes sont sincèrement trompés par les écologistes. C'est véritablement un fou frère, hein, quand on dit protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge, et ben voilà, on a ça. Alors, dans cette démonstration, dans ce comportement de ce personnage qui a écrit, qui a commis ces deux papiers, il dit, ah ben, au fond, les scientifiques, puisque une grande partie des scientifiques considèrent en effet qu'il y a un réchauffement de la planète, ce qui paraît évident même pour un non-scientifique, mais, dit M. Pelletier, il y a quelques scientifiques qui, eux, disent que c'est pas vrai, que c'est un phénomène tout à fait naturel et que c'est un phénomène fatal, que c'est un phénomène qui est une vue de l'esprit. Voilà le discours de Pelletier. Et donc, alors qu'il assène aux anarchistes le fait qu'ils sont en effet souvent très critiques à l'égard de la science sans conscience, et d'ailleurs il n'y a pas que les anarches qui ont dit ça, Rabelais l'a dit le premier, eh bien lui-même il s'appuie sur la minorité de scientifiques qui en effet considèrent que le réchauffement planétaire est fatal d'une part, naturel d'autre part, et ou bien que c'est une vue de l'esprit. Donc on peut dire que là, hein, c'est vraiment on peut difficilement dépasser la bêtise. Alors quand d'autre part on voit que l'absurdité de ces thèses, hein, et le fait d'être obsédé depuis plus de 15 ans par cette bataille contre les fachos que sont les écolos, contre le principe même, sans parler des hommes, c'est-à-dire au fond ne pas vouloir regarder les réalités, opposer d'une façon stupide les idées à la nature, dire que effectivement la nature n'a toujours été que, ça aussi c'est une banalité, a toujours été domestiquée par l'homme, a toujours été en effet la terre a été pour une partie d'elle-même transformée en support d'une activité. Hein. C'est, disons, j'allais dire, est devenu un jardin grâce aux hommes. C'est peut-être un peu excessif, mais enfin, c'est vrai. C'est une banalité que de dire qu'après les périodes chasseurs-cueilleurs, eh bien, on a eu les sédentaires qui ont cultivé le sol. Mais tout ceci, effectivement, n'a rigoureusement rien à voir avec le débat sur l'écologie. Alors, Quand on lit ce galimatias, cette verbosité, quand on lit ce pathos complètement entortillé, quand on lit cette logorée totalement insipide de M. Pelletier, et on se demande où est le rapport avec une étude sérieuse, une explication, une confrontation de mode d'analyse sur l'écologie. Et quant à dire qu'en effet, si vous êtes pour une analyse, un constat, et éventuellement ce que pourraient être les solutions qui évidemment ne seront pas prises dans la société capitaliste que nous sommes, mais ce que pourraient être des solutions qui respectent à la fois les hommes et la nature, eh bien, vous êtes, pour M. Pelletier, vous êtes un facho, vous n'êtes pas un anarchiste. Alors, donc, c'est bien, en effet, une entreprise de diabolisation qui est faite, et nous ne pouvons évidemment qu'être critiques à son égard.
Alors, évidemment, bon, l'autre aspect, puisqu'on parlait même dans la conclusion, c'est vrai que Philippe Pelletier n'est pas là, hein, pourrait dire, par rapport aux commentaires, donc deux articles qui nous ont semblé, enfin on l'a dit ce matin, je t'ai dit, Le Monde libertaire les a publiés peut-être pour provoquer le débat, mais en tout cas pour débattre, il faut quand même avoir des choses un petit peu plus intéressantes que ça, et puisque on est sur, certains diraient, pour l'écologie, n'utilisons pas, ne gaspillons pas de papier ou des arbres pour imprimer des choses aussi stupides. Alors, si ce que tu disais en particulier, son papier fait d'amalgame, de mélange, Et il y a des choses beaucoup plus graves aussi planquées derrière, je disais, par rapport à ça, moi, ce que j'ai vu dans son article. Là, encore une fois, il nous parle, bon, des catastrophes. Alors, il dit, ça, c'est vrai que c'est catastrophe de les montrer quand on monte la forêt amazonienne, hein, qui est quasiment détruite à plus de 9 dixièmes. Eh bien, c'est télégénique, hein. Et aucun reportage médiatique va nous montrer les ouvriers dans la merde, des habitations dans la merde, c'est ce qu'il nous dit, vous n'en verrez pas. Et là, bah, évidemment, on est bien d'accord avec lui par rapport à l'ensemble des reportages faits par les grands médias sur le fait d'entreprises, d'usines ou des gens qui souffrent dans cette société, que évidemment les grands médias vont pas le montrer. Mais ce que pourrait lui répondre, il y a quand même derrière quelque chose qui traîne. Hein, je te le disais ce matin, si tu veux, un vieux fonds de productivisme peut-être à son insu, à l'insu de son plein gré, parce qu'il nous dit ce catastrophisme qu'il fait a peur les masses, hein, il emploie ce terme-là, moi c'est son vocabulaire, du monde prétendument post-industriel tout en stigmatisant encore une fois les masses de l'ex-tiers-monde jugé coupable de vouloir rejoindre ce monde industrialisé. Alors voilà l'affaire. Voilà l'affaire, parce que l'ensemble de la Chine ou l'Inde, s'ils veulent faire pareil que les pays occidentaux, les empêcher de faire pareil que les pays occidentaux, eh bien, ça serait facho ou ça serait criminel. Et simplement de se poser la question, de dire que si l'Occident, dans son développement complètement idiot de la société industrielle telle qu'on la voit aux États-Unis, regardons les États-Unis, regardons l'ensemble des grandes villes aux États-Unis, comment les gens ne peuvent survivre à l'intérieur, ce monde totalement déshumanisé. Alors vouloir empêcher à ce que des pays, comme on appelle émergents, qui sont en train de se développer, de vouloir en faire pareil, eh bien, ça serait dégueulasse. Et comme le catastrophisme et comme la planète, elle n'en est peut-être pas au point où on veut nous le montrer, eh bien, on empêcherait les plus pauvres, les pays les plus miséreux, en tout cas, hein, ouais, pour la Chine, oui, de vouloir acquérir, ouais, un mode de développement et de complètement dingue comme le nôtre. Alors, premièrement, oui, ça, il y a ça dedans qui affleure. Et Jacques, je te disais quand même ce matin, on va terminer. Il nous parle des générations futures. Eh bien, les générations futures, est-ce qu'on pense à ceux qui vivent maintenant? Tu sais, c'est ici et maintenant, et on est bien d'accord. Donc, ici et maintenant, améliorons notre cadre de vie. Alors, je demande à Pelletier de regarder notre cadre de vie. Hein, si le cadre de vie actuel de l'améliorer, on se demande si c'est possible. Et deuxièmement, il termine, puisque tu te posais la question tout à l'heure, il ne s'agit pas, nous dit-il, voilà la ruse, de nier la gravité des problèmes, ou au contraire, de se taire, pour ne pas désespérer Billancourt. Alors il rajoute quand même, et Neuilly-sur-Seine, il ne s'agit pas non plus de dire n'importe quoi, hein, monsieur Philippe Pelletier, oui, car cela profite aux charlatans, aux bonimenteurs, il parle pour lui, aux carriéristes, qui tiennent encore le monde sur le dos des naïfs. Oui. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Oui, enfin, oui, c'est ce qu'on voulait dire ce matin.
Oui, bon. C'est vrai que, bon, comme tu dis, on ne va pas user un arbre, ouais, voilà, pour faire un papier, encore que ça serait peut-être bien que nos amis, notamment de la commission des croissances, oui, fassent quelque chose. Oui. Peut-être qu'on pourrait le faire aussi, mais,
oui, oui, oui,
mais c'est vrai que c'est malheureusement bis repetita placent, les choses qu'on répète plaisent beaucoup, parce que je relisais un article de Pelletier sur un bouquin qu'avait fait un de nos amis anarchistes d'origine américaine qui s'appelle Clark, je cherchais son,
oui, je cherchais Philippe son, Clark.
Son prénom.
Philippe Clark.
C'est aussi Philippe?
Oui, je pense que c'est Philippe Clark. Non,
ouais, tout cas, ouais, ça se passait en 1997. Alors, en 1997, Monsieur Pelletier... Oui, c'est John Clark.
John Clark,
qui avait écrit « La pensée sociale d'Élisée Reclus, géographe anarchiste, oui ». Et donc, comme Monsieur Pelletier, je suppose, ne supporte pas qu'on puisse évoquer Élisée Reclus, d'ailleurs, dont il déforme totalement la pensée aussi à l'intérieur, comme celle d'ailleurs de Proudhon, parce qu'il cite Proudhon sans dire pourquoi, il cite Bakounine sans dire ce qui a été dit, il cite pas Blanqui, parce qu'effectivement, Blanqui a critiqué les formes absurdes dont le capitalisme naissant, on était pourtant qu'en 1860, dont le capitalisme naissant faisait preuve à l'égard de l'attaque contre contre la nature, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement l'attaque contre les comportements humains, mais aussi contre la nature, eh bien, ce discours qui traîne depuis 1993, qui a été repris en 1997 par M. Pelletier, qui continue à être un imposteur écologique, eh bien, il est totalement ringard. Alors, c'est sûr qu'il y a eu la réponse de John Clark, qui avait fait ce papier sur... répondant à la critique de Philippe Pelletier. Et effectivement, bien sûr que on peut pas défendre, on peut pas tout mélanger, parce que
non,
il considère,
c'est ça
l'amalgame dont tu parlais. Oui. Il fait toute une critique de l'écologie en partant des hommes politiques écologistes ou non, d'ailleurs. Hein, effectivement, le parti des écologistes, on sait très bien à quoi ça mène. Il fait la critique de l'écologisme à travers les médias. On sait très bien ce que c'est que les médias. Voilà. Il fait la critique à travers le comportement des capitalistes, sont tout à fait à l'affût de récupérer une possibilité de faire des affaires sur ce sujet-là, un petit peu comme ça s'est passé malheureusement dans le domaine agricole avec l'agriculture bio, l'agriculture raisonnée, tout ceci, effectivement, dans un milieu, dans un monde dans lequel seul le profit compte, seule l'efficacité. Tiens, il y avait, à propos d'efficacité, j'ai vu le film sur ma mondialisation, dans lequel M. Mermet a fait d'ailleurs une interview du réalisateur, et on voit un patron dans cette petite vallée de larves, là où les en Haute-Savoie, où les petites entreprises de sous-traitance ont été plus ou moins éliminées par les grosses sociétés, les fonds de pension, les fonds d'investissement américains. Mais alors, il y en a un qui a survécu. Et puis, il a réussi à installer deux autres usines, l'une en Tchécoslovaquie, l'autre en Chine. Et puis aussi un hôtel particulier en Guadeloupe. Et quand on lui dit, mais vous trouvez pas quand même que, quand on voit le sort de vos collègues, sous patrons de petites entreprises, ou bien surtout des milliers de salariés qui sont ainsi foutus à la rue, il répond simplement, ah ben moi je suis efficace, moi je suis efficace. Et un autre patron répond, et un autre patron toujours de cette vallée qui a vendu à un fonds de pension américain sa boîte de décolletage qui employait 1000 ouvriers. Alors on lui demande, mais quand même, ça vous fait pas quelque chose d'avoir mis sur le pavé comme ça 1000 personnes et leur famille? Et donc il garde un silence pendant quelques minutes et puis il dit à la fin, ah ben je compatis. Alors tu vois où on en est effectivement. Alors quand M. Pelletier, s'attaquant à l'écologie, simplement ne cite que le comportement des médias, le comportement des politiciens de l'écologisme ou le comportement des capitalistes qui sont efficaces et qui à ce titre-là peuvent utiliser toutes les recettes de leur efficacité pour utiliser les armes dites écologiques, c'est vrai que à partir de là, faire une démonstration pour souligner que l'écologie, c'est du fascisme ou du pétainisme, on peut dire que c'est la connerie à l'état pur.
Voilà, Jacques. Alors donc, ce matin, il reste 5 minutes pour Chronique Hebdo. Jusqu'à midi, on vous l'avait dit au début de cette émission, qu'on rappellerait peut-être le numéro d'un site, plutôt l'adresse d'un site où on peut réécouter. Si vous souhaitez écouter les blasphèmes de Chronique Hebdo la nuit, donc c'est possible. Alors je vous communique tout de suite l'adresse, c'est http://backup.radio-libertaire.org. Il suffit de le faire avec un moteur de recherche qu'on appelle Gogol, si on veut blasphémer. Alors http://backup.radio-libertaire.org. Deuxièmement, comme annon, Jacques, rappelez que à la librairie Publico, 145 rue Amelot, le siège de Radio Libertaire et du Monde Libertaire, où vous pourrez vous procurer votre carte d'auditeur dont le prix est fixé à 20 €, eh bien, vendredi 1er décembre à 18 h, vernissage d'une exposition de tableaux qui sont, que vous pourrez voir, d'André Robert.
Du peintre André Robert, ah, voilà. Et qui sera alors, voilà. assisté par un, aussi par un de nos amis peintres qui s'appelle Jean d'Assonval.
Exactement, à 18h. Alors, à
18h. Vendredi. 140... Alors, samedi, si vous allez à
Attends, Jacques, juste
chargée.
145 rue Amelot, Paris 11e, donc à 18h vendredi. Alors, il faut le dire aussi, vous pouvez, la dernière page du Monde Libertaire, une reproduction d'une œuvre de notre copain André Robert. Hein. Voilà. Important alors, de venir. Alors, samedi, Jacques, voilà.
Samedi. Alors, samedi, n'oubliez pas que vous pouvez aller rue Cabanis, c'est au métro Saint-Jacques, c'est au foyer international la FIAC, où il y a la réunion de, j'allais dire annuelle, de la société Proudhon, qui organise son colloque, où il y aura une 6 ou 8 interventions sur le thème « L'actualité de la pensée de Proudhon ». Et je crois que ça vaut la peine que vous vous dérangiez. Alors, vous pourrez trouver... C'est un peu dommage que le Monde Libertaire n'ait
voilà,
pas repris cette information, mais
pas la
vous
formation.
Pourrez trouver à Publico, je le suppose en tout cas, un document dans lequel vous aurez la liste des 6 intervenants. Et notamment, il y a un personnage que vous connaissez parce qu'il écrit quelquefois dans le Monde Libertaire, qui est Gaetano Manfredonia.
Alors, le matin, samedi, c'est à partir de 10h?
À partir de 9h.
9h jusqu'à l'après-midi?
C'est toute la journée. Donc, il y a une cafétéria. C'est un grand lieu,
voilà.
Ce fonds international d'accueil à la FIAC rue Cabanis, donc au métro d'Enfer, Rochereau ou bien Saint-Jacques. Et donc, il y aura 3 interventions le matin, 3 l'après-midi ou peut-être un peu plus avec entre les interventions des discussions avec la salle, comme ça se passe tous les ans, sur le thème « L'actualité de la pensée proudhonienne ». Et je pense que c'est une bonne chose que de se rafraîchir un petit peu la mémoire, bien
eh
que,
oui.
comme le dit Camus,
oui.
il faut agir ici et maintenant.
Oui.
Il n'est pas mauvais oui. de se rappeler, ou en tout cas de digérer, d'absorber, comme le disait Henri Michaud, eh bien c'est quand on a absorbé toutes les connaissances qu'on commence à réfléchir sérieusement soi-même. Eh bien, il n'est pas utile de retrouver les propos et éventuellement les commentaires sur la pensée proudhonienne.
Alors,
et pas seulement faire comme M. Pelletier, citer Proudhon sans dire ce qu'il a dit sur
oui.
ce thème de l'écologie.
Alors justement, puisque ce matin c'était le blasphème, aussi relire le merveilleux texte de Proudhon sur l'ironie. Vous avez un beau texte, hein, si un jour on le retrouve, on vous le lira aussi l'ironie. C'est très important parce qu'on oublie un peu, puisqu'on parlait des humoristes aussi, des vrais humoristes irakiens ce matin, en tout cas qui se sont fait flinguer. Et puis l'ironie a quitté un peu nos sociétés. Et je crois que quand on manque d'ironie, évidemment, on est prêt à se précipiter, à se mettre à genoux devant n'importe quelle divinité. Alors aussi, Jacques, c'est très important, puisqu'on parle de Proudhon, on va parler des bibliothèques, et en particulier la bibliothèque Larue, qui fête ses 8 ans à la bibliothèque Larue. C'est 10 rue Robert Planquette, Paris 18e, c'est le métro Blanche ou Abbesse. Alors la bibliothèque Larue, ben, elle propose des bouquins sur l'anarchie, tout ce que vous voulez savoir sur l'anarchie, et c'est gratuit, et ça fait 8 ans que ça dure, et donc cette fête de cette bibliothèque donc se fera samedi prochain, c'est le 2 décembre, et à partir de 15h30, il me semble bien que la bibliothèque Larue ouvre à partir de 15h30. Donc voilà, vous avez le matin la possibilité, et de venir en tout cas, ceux qui le souhaiteraient, peut-être après la société Proudhon, eh bien d'aller à la bibliothèque Larue pour les 8 ans justement d'un travail remarquable, hein, de près d'ouvrages anarchistes. Alors voyez, ce matin donc par rapport à ces thèmes, je vous ai rappelé aussi la possibilité, on en parlera plus longtemps la semaine prochaine parce que ça va être tout de suite l'émission de Rimes et de Notes, Le Présentes-tu, Donc, pour un autofinancement de Radio Libertaire, dans le collimateur, évidemment.
Oui, oui, on avait déjà abordé.
Voilà. On l'a abordé, ce
On a abordé ce sujet à propos de ce qui se passe en ce moment au CSA. Le voilà. CSA, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est l'autorité de tutelle sur tout ce qui est télévision et radio, et qui donc, c'est le fait du prince, et donc il est fortement, il y a un projet de ce conseil, de cet organisme d'État, qui consisterait à, d'une façon plus ou moins détournée, à limiter l'audience des radios associatives, notamment en leur disant de réduire leur fréquence. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui causent pas pareil, hein, c'est un petit peu une forme de, là aussi, de religiosité. Quand vous croyez pas au même Dieu, eh bien, vous avez plus la parole et éventuellement on vous élimine. Donc, on a comme intention de demander à tous nos auditeurs et à tous les amis qui ont soutenu depuis 20 ans et Radio Libertaire depuis 25 ans et ceux qui nous rejoignent maintenant, on a l'intention de leur demander d'adhérer à une association des amis de Radio Libertaire. Évidemment, cette demande n'est pas désintéressée puisqu'il s'agirait, dans la mesure des moyens de nos amis, de financer, enfin d'apporter un financement, soit par un prélèvement mensuel, soit par tout autre moyen, de façon à ce que nous ne dépendions plus autant de la subvention qui est accordée, vous savez, aux radios associatives et qui est fondée sur les recettes publicitaires des radios commerciales.
Voilà, Jacques. Alors, juste une petite dernière, comme on dit, avant la prochaine émission, mais ça concerne la chanson. Alors, Bruno Daraki au Forum Léo Ferré, jeudi 14 décembre. Donc, qui chantera et dira des textes.